C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
Vous venez d'entendre un extrait du Petit Jardin de Jacques Dutronc de 1972 qui évoque la pression immobilière dans les villes et avec la disparition des jardins. Bienvenue dans notre podcast Le Temps d'un Café. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'agriculture urbaine en compagnie des jardinières masquées et du chercheur José Serrano de l'Université de Tours. Nous avons rencontré Martin et Véronique, membres du mouvement des jardinières masquées, qui plantent des comestibles en ville. Ce groupe se définit comme un mouvement libre et spontané et ne veut pas devenir une association afin de garder son indépendance. Le mouvement s'autofinance grâce aux prêts et aux dons des membres. Ces jardinières et jardiniers ont installé place Strasbourg des bacs dans lesquels ils cultivent toutes sortes de comestibles. Ils nous ont alors présenté leur initiative qui est née en avril 2020 à Tours.
Ce mouvement est né d'abord pour nourrir les gens, pour le côté social, pour apprendre et transmettre surtout. On n'est pas prétentieux de pouvoir nourrir le monde entier, mais on essaye déjà d'enclencher les choses pour dire aux gens « c'est possible, regardez, c'est possible de le faire ». Et si vous vous groupez, on peut réussir à faire de grandes choses.
Ainsi, si le premier objectif a été de permettre aux habitants et habitantes d'accéder à des produits alimentaires, le mouvement a également d'autres réflexions.
L'espace public, c'est aussi quelque chose qui appartient aux citoyens et pas juste à la mairie, pas juste à une ou deux personnes qui passeraient dans ce local, et c'est à tout le monde. Donc, regrouper le quartier autour de l'espace public, de qu'est-ce qu'on a envie de voir apparaître dans l'espace public, c'est aussi une réflexion que les jardinières masquées ont envie de poser. On veut aussi déléguer l'entretien des jardinières masquées aux gens du quartier. Dans ce but-là, on a aussi une vocation sociale de créer du lien autour des bacs, autour de la relation à la terre, autour de la relation à l'alimentation. Et si un jour les habitants du quartier prennent notre place, on aura tout gagné ce jour-là. Plus on sera nombreux, plus on aura exporté, essaimé notre concept, plus on nourrira des personnes en local, des personnes aussi qui auront cultivé aussi ce légume, ces légumes. Donc on ira jusqu'au bout du lien de la terre à l'assiette, et pas de la terre au supermarché et du supermarché à l'assiette. C'est une belle utopie qu'on a pensée maintenant, on essaye de la faire vivre. Et ça marche. On a eu nos premières récoltes de tomates, on en a fait des confitures. Les fleurs de courgettes ont été panées et grillées. On est totalement dans la philosophie du mouvement de partager un savoir et de le faire autour de l'agriculture et de l'écologie.
On leur a demandé comment ils sont organisés. Ils nous ont alors expliqué qu'ils ont créé une charte pour le fonctionnement de leur mouvement.
La charte, en fait, elle est arrivée complètement au tout début parce que justement, on était plus de 60 personnes, il y avait le confinement et on s'est dit, tiens, il va falloir des règles. Alors il y a quelqu'un qui nous a amené une charte, mais à moitié politique. Et on se dit apolitique, à religion, et tout le monde a le droit de planter, d'entretenir et de cultiver. C'est ça les règles de la charte. La base de la charte, c'est ça. Après, avec le temps, on s'est aperçu qu'on avait des questions qui venaient un peu de partout. Donc, il faut qu'on rectifie, il faut qu'on rajoute des petits textes, justement, pour exprimer un petit peu plus directement certaines choses. Mais cette charte, on en a eu besoin, en fait, dès le début, parce que comme nous ne sommes pas une association déclarée juridiquement, nous ne sommes un mouvement, c'était pour montrer aux gens que tout le monde pouvait venir accéder. Et c'était beaucoup plus facile, et rentrer et sortir. Et on avait besoin de ces règles pour que justement tout le monde se respecte au départ. Donc un échange d'amour, de partage, de faire les choses ensemble, de s'entraider et tout ça. Et ça, c'est la charte en fait.
Au départ, les jardinières masquées ont planté des comestibles de manière sauvage. Puis le mouvement a été approché par la mairie, avec qui aujourd'hui il est en relation. C'est ce que nous explique ici Véronique.
Alors il y a eu un premier rendez-vous avec l'ancienne mairie. Quand ils ont eu vent des jardinières masquées. Alors, ils ont eu vent des jardinières masquées parce qu'il y a quelqu'un qui a dit sur un journal que la mairie n'était pas d'accord avec les jardinières masquées pour planter dans les parterres de la ville. La ville a démenti ça, mais a convoqué les jardinières masquées, bien sûr. donc un petit peu de tapage sur le bout des doigts, un petit peu de recentrage, et puis en fin de compte, ils se sont aperçus que le mouvement a continué quand même, malgré le confinement, malgré les contraintes de la vie par rapport à la crise sanitaire et tout ça. Et donc la nouvelle mairie, qui s'est déclarée écolo, nous a reconvoqués. Et donc, du coup, ils nous ont demandé de travailler ensemble. Et toujours dans le respect. Donc, nous, on veut créer un événement. Vous voulez le faire où? Ils nous préparent le terrain. Et pour que ce soit durable, et que ce soit propre, et que tout le monde puisse l'accepter facilement.
Nous voulions enfin savoir quel est leur souhait pour le futur.
Si ça se répand dans toutes les villes de France, ça serait génial. Et je pense qu'il y a des mouvements qui naissent un peu partout dans le monde entier, citoyennes, qui s'appellent pas les jardinières masquées obligatoirement.
Dans la seconde partie de cet épisode, nous allons parler d'agriculture urbaine avec un chercheur spécialiste de cette thématique. Nous avons interviewé José Serrano, chercheur en aménagement de l'espace et urbanisme au département aménagement et environnement de Polytech Tours. Ses thématiques de recherche portent principalement sur l'agriculture périurbaine. Il appartient à l'équipe DAT, qui fait partie de l'unité mixte de recherche CITER. Nous lui avons d'abord demandé, tout simplement, ce qu'est l'agriculture urbaine.
Alors pour moi, il y a plusieurs définitions, et notamment en fonction, en fonction des disciplines, mais aussi en fonction des pays. Si vous prenez par exemple des pays africains, où l'agriculture urbaine, on peut dire que c'est une agriculture qui existe physiquement dans la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas des villes compactes comme en Europe. Et on peut avoir des espaces maraîchers ou horticoles, mais même des espaces de production, production agricole à l'intérieur de la ville, sur des surfaces qui sont pas négligeables. Donc dans ces pays-là, une agriculture urbaine, c'est une agriculture qui se situe à l'intérieur de la ville. Dans un contexte européen et même en France, moi, dans mon cas, je trouve que c'est plus difficile à définir l'agriculture urbaine, puisque en fait, les espaces de production agricole à l'intérieur de la ville sont très réduits. Et donc pour moi, c'est pas évident. Alors, il reste toujours des jardins ouvriers, où il peut rester des espaces agricoles, mais qui sont finalement assez réduits. Et de mon point de vue, disons qu'avec ma formation aussi d'ingénieur agronome, pour moi c'est difficile de parler d'agriculture urbaine, par exemple en France. Après, je sais qu'il y a des nouveaux types d'agriculture qui se développent. On essaie de produire sur les toits, on essaie de faire de l'agriculture verticale, donc en ville, tout ça c'est des nouvelles surfaces en ville. Bon, c'est encore expérimental de mon point de vue. Et je ne sais pas si on peut parler véritablement d'agriculture, c'est-à-dire d'une activité économique qui produit des produits alimentaires.
L'agriculture urbaine n'est pas une pratique récente. En effet, au Moyen-Âge, à l'intérieur des remparts qui ceinturaient la ville, il y avait des espaces de production agricole. Au XIXe siècle, se répandaient déjà les jardins ouvriers. Néanmoins, aujourd'hui, l'agriculture urbaine devient un enjeu. Et nous avons demandé à José Serrano pourquoi.
Dans le contexte de la pandémie, on redécouvre un peu notre vulnérabilité à des approvisionnements à longue distance. Et donc, il y a un regain d'intérêt pour, et puis aussi une remise en cause de l'organisation de la production alimentaire sur un niveau mondial, où les produits voyagent sur de très longues distances, enfin avec un commerce international. Il y a peut-être aussi une remise en cause de ce modèle-là, qui est consommateur d'énergie, qui pose des problèmes environnementaux. Mais là-dessus, sur ces aspects-là, la crise du Covid est plutôt un effet accélérateur qu'une rupture, quoi, en fait. Il y avait déjà une prise de conscience qui se faisait.
Mais à quoi sert l'agriculture urbaine?
Les objectifs, ça dépend toujours de qui porte les projets, mais l'intérêt principal que j'y vois, moi, aujourd'hui, c'est plutôt l'intérêt social, de rapport entre les habitants. voilà, de recréer de la convivialité, de recréer un rapport à la nature, puisqu'un milieu urbain, c'est quand même pas si évident que ça, et de retrouver un contact, l'expérience de la nature en milieu urbain est quand même pas évidente. Donc là, par rapport à une production, même si c'est des micro-élevages, ou enfin les abeilles, ou même les produits qui poussent, on retrouve un contact avec la nature. Donc pour moi, là, il y a un intérêt qui est fort. Après la question alimentaire, voilà, mon point de vue, c'est que quantitativement, c'est pour l'instant, c'est trop négligeable. Je vois mal voilà, résoudre un problème en tout cas d'autosuffisance ou d'indépendance alimentaire par une production enfin, intramuros, quoi, en fait, dans du bâti, dans des villes qui sont densément, enfin, densément construites, quoi, densément bâties. Donc l'aspect, ça fournit toujours des produits alimentaires, hein, mais disons que ce n'est pas pour moi un enjeu d'alimentation de masse ou d'indépendance alimentaire. Quantitativement, on n'en est pas là et on en est extrêmement loin, quoi, en fait.
Nous lui avons enfin demandé comment il verrait la réorganisation de l'espace urbain afin d'engendrer le début d'une autosuffisance alimentaire urbaine.
Pour moi, c'est alors je verrais ça comme ça, c'est remplacer du bâti par des surfaces de jardins maraîchers ou enfin de jardins ouvriers ou de maraîchage. De se dire dans cet espace bâti, on va produire plutôt que de faire du logement ou d'autres activités aussi tertiaires, on va réhabiliter, se mettre à produire des légumes. Donc c'est un choix quand même, ça veut dire renoncer quand même à une valorisation du foncier qui est quand même très, très intéressante pour faire autre chose. Donc ça c'est possible, hein. Mais ça veut dire, voilà, c'est un choix d'aménagement qui est quand même extrêmement fort. Mais ça pourrait être une option. Bon, je pense que je ne le verrai jamais. Mais ça peut être, pour moi, ça, c'est ça, c'est redonner de la place au sol, en fait, à l'agriculture, en fait.
Il apparaît aujourd'hui compliqué de nourrir la ville par la ville et d'atteindre une autosuffisance alimentaire urbaine. Néanmoins, les initiatives comme les jardinières masquées sont des moyens de recréer une sociabilité importante entre les personnes et de reconstruire un rapport à la nature. Elles permettent également de s'interroger sur la place qu'on donne à la production alimentaire en ville et comment on recrée un lien de proximité avec l'agriculture. Elles remettent en question l'idée de toujours urbaniser, densifier et valoriser l'espace par de la construction. Nous remercions les jardinières masquées que vous pouvez retrouver sur leur page Facebook et José Serrano pour leur participation. Cet épisode vous a été présenté par Jeanne Dardar. Il a été réalisé et mixé par Jérémy Latière, Minji Kim et Jeanne Dardar. La musique est de The Fisherman. On vous retrouve dans un prochain épisode de Le Temps d'un Café pour parler d'alimentation durable et responsable. This is real.